I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing d'une femme qui véhicule une joie de vivre communicative. Sandra Sisley est à la fois une femme d'affaires à la tête de sa propre agence de com et RP, Sandra & Co, et créatrice de la marque B avec son comparse Nicolas Hochnir, et nouvellement organisatrice de Boom Rétro. Eh oui, de Boom Rétro. Quand je l'ai invitée dans mon podcast pour parler de mode, elle a tout de suite poussé un cri de joie en disant, je la cite, « J'ai mille choses à dire sur le sujet ». Bonjour Sandra.
Bonjour Valérie. Dis donc, t'as bossé. Hein.
Mais je prépare toutes mes interviews. Alors je voudrais commencer par ça, en menant une petite enquête, une petite revue de presse sur toi. Tu as dit une phrase, « Je suis une combattante du bonheur ».
C'est vrai, c'est un peu mon mantra. J'en ai deux, trois comme ça. J'essaye toujours, en fait, d'orienter mes pensées et mes motivations vers le bonheur. C'est un gros boulot. Hein.
Mais ce qui est fou, là, c'est que tu me parles avec le sourire aux lèvres.
Alors déjà, parce que je suis contente de te voir, qu'on est toutes les deux assises par terre comme si on faisait un
goûter.
Dans
ton salon.
Dans mon salon, plus ou moins bien rangé. Hein. Ce salon qui représente un peu ma vie, tu vois. Il y a ça, tout et n'importe quoi.
Il y a une batterie, il y a un appareil, je sais pas.
De l'espace, qui est un vélo sonar. Il y a une trottinette électrique, il y a des crayons de couleur d'enfant, il y a des soins du visage, il y a des clopes, comme tu peux l'entendre.
Eh ben, c'est un joyeux bordel, c'est qu'on aime.
C'est un joyeux bordel. Et oui, le bonheur, c'est une valeur clé, phare dans ma vie. Parce que non pas que je sois une joyeuse idiote et que je me dise, oh, tout est génial, tout est joyeux. Non, je pense qu'il faut le travailler, le bonheur. Et je pense qu'il faut lui donner sa chance quand il y a d'autres paramètres qui arrivent.
Et le savourer aussi.
Et surtout, oui, absolument, savoir quand il est là et se dire, tiens, là, je suis quand même pas malheureuse, c'est quand même pas mal.
Alors, avant de chiffonner, on va parler un petit peu de ton parcours parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent.
Et vous avez 5 heures.
Très intéressant. Non, on a 30 minutes. Alors, okay. J'ai vu que tu as commencé par faire du droit.
Absolument.
Tu es stéphanoise d'origine.
Alors oui, personne n'est parfait. Alors, les stéphanois sont géniaux, mais Saint-Étienne, comment vous dire, c'est la tristitude. C'est une ville qui est très, très grise et d'où mon goût pour la couleur et le combat du bonheur, parce que je vous assure que c'était pas gagné. Donc oui, j'ai fait du droit parce que le droit mène à tout. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Je savais que je voulais étudier parce que je savais que c'était une manière très 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 efficace de s'assurer dans les rapports humains de quoi se raccrocher en fait quand on a des discussions, quand on est surtout à mon époque, moi j'ai 50 ans, il n'y avait pas encore tout ce travail qu'a fait cette nouvelle génération de femmes pour imposer l'intelligence, le pouvoir, etc. Enfin, c'était en cours. Hein. Il y avait eu évidemment des Simone Veil, il y avait eu mai 68, mais disons que l'ère MeToo et tout ça n'existait pas encore. Donc, on devait avoir des armes quand on était un peu mignonne, un peu pas trop conne.
Il fallait un peu désirable aussi.
Ouais. Bah, écoutez, moi, ouais, pour moi, absolument. Il fallait avoir de quoi se défendre quand on subissait du sexisme ou des a priori, parce qu'il y en a beaucoup.
Bah oui, parce que quand on aime faire la fête, on est forcément bête, quelque part.
Voilà, absolument. Il y a un côté décérébré qui est forcément transparaît, et ce n'est pas le cas.
Or, tu es à la tête donc d'une agence de com, tu sais, Sandra & Co.
Absolument.
Tu as créé la marque B. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Alors, oui, bien sûr, Valérie. La marque B, c'était un rêve de gamine.
Elle est née pendant le confinement.
Absolument, elle est née pendant le confinement, c'est assez marrant. Pendant le confinement, moi, comme tu l'as très justement rappelé, j'ai une boîte de communication et d'événementiel. Donc, quand le lockdown est arrivé, bien, je me suis retrouvée. En fait, c'est comme si je bossais pour le père Lachaise, à savoir, je n'avais plus rien à foutre. Parce que dans la communication, si tout à coup vous êtes enfermé chez vous.
Surtout l'événementiel. Et c'est vraiment une relation publique.
Absolument. Donc, j'avais plus rien à foutre. Donc, j'ai, la première semaine, beaucoup embêté ma famille parce que j'aime beaucoup me changer. J'aime beaucoup. En fait, je suis une hyperactive. Donc, vous imaginez bien que, et d'ailleurs, ça a été le cas pour plein de gens, se retrouver enfermé entre quatre murs, quelle que soit la taille des murs, c'est extrêmement angoissant. Donc, je me réveillais le matin, je m'habillais d'une certaine façon, puis je faisais des petits sketchs à ma famille. Bon, je les faisais chier. Pardonnez-moi l'expression, c'était fou. Et mon mari m'a dit, Sandra, il faut que tu trouves un truc à faire parce que nous, personnellement, on va craquer. Le Covid, c'est moins grave que toi. Donc, je suis retournée à mon bureau et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Et comme beaucoup, à ce moment-là, on s'est interrogé sur l'utilité et le sens de notre travail. Et moi, c'était compliqué parce que je n'avais plus rien à faire. Et donc, je me suis assise à mon bureau et pendant plusieurs jours, j'étais derrière ce bureau à rien foutre, mais toujours habillée avec un... Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone, comme ça vous y assistez. Et pendant plusieurs jours, j'arrivais à ce bureau, toujours habillée de la même manière, avec un hoodie et une capuche. Et je me disais, ça serait pas mal que... Mais pas avec la même humeur. Mmh. Et je me disais, ce serait pas mal que mes enfants et mon mari, je puisse leur signaler dans quelle humeur je suis avec un vêtement.
C'est comme ça que tu as commencé.
Absolument, absolument. Et donc, un matin, je me réveille, j'avais un vieux hoodie de Wish et j'ai écrit sur le devant de mon hoodie « Do not disturb ». Parce que j'étais d'une humeur de chien.
Ah, ça t'arrive quand même.
Bien sûr, oui, très souvent même. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est des petites crises mytho. Et puis, de toute façon, je ne sais pas faire la gueule longtemps. Et là, je me dis, mais ça serait une super idée d'écrire son mood sur son vêtement. Et donc, j'appelle mon pote que j'adore, Nicolas Ouchenir, qui est un artiste que j'admire énormément, qui est calligraphe, donc qui a ce métier autour de l'écriture et de la beauté des lettres. Mmh. Et je lui dis, Nico, j'ai envie de monter une marque de fringues avec toi autour de l'écriture. Et en fait, ça serait un vêtement unique. Et on écrirait dans notre dos ce qu'on est ou qui on est ou qui on a envie d'être. Il me dit, mais c'est une méga idée et tout. Et je lui dis, j'ai pensé à la marque B. Parce que « be », »,« être » en anglais. Et donc, en fait, il y aurait « be » devant, parce qu'on « être », on l'est toujours. Et dans le dos, on mettrait « be happy »,« be yourself »,« be imperfect ». L'idée, c'était d'assumer qui on est, quoi qu'on soit. Bon, évidemment, pas « be », enfin, pas criminel, mais... Donc, c'était vraiment le fait d'assumer qui on est dans un vêtement confort qui peut être à la fois mode, mais aussi très casual et de tous les jours. J'ai regardé sur l'INPI, si « be », donc ça, c'est les études de droit qui aident, si « be » existait, recherche d'antériorité, ça n'existait pas. Donc, j'ai déposé « be », et puis là, j'ai fait mon travail, donc je me suis occupée. J'ai cherché comment... En fait, tout simplement, quand au début, quand on monte une marque, on ne sait pas par où s'y prendre. Les fournisseurs, comment il faut faire. Et l'idée, c'était très important pour moi, c'était que la marque soit éco-responsable.
Et solidaire.
Absolument. Et solidaire, parce que je voulais donner du sens à ça. C'était très important. Ce n'était pas juste avoir un business, c'était avoir un business qui a du sens. Donc, mon idée, ça a été de monter cette marque et de, tous les mois ou tous les deux mois, parce qu'au début, c'est tous les mois, puis en fait, l'activité très vite te rattrape. Donc, tous les mois ou tous les deux mois, on choisit une association et on crée un bi autour de l'association, donc avec un mot qui lui correspond. Et 100% des ventes de ce hoodie vont à l'association. Donc, j'en suis assez fière.
Tu peux. Alors, j'ai oublié une question, figure-toi.
Ah, tu oublies
tellement...
des choses.
Ouais. Non, mais tu vois, j'ai pas si bien préparé que ça. Non, je plaisante. Comment, en deux mots, comment tu es passé du droit à la com?
Alors, c'est très simple. Enfin, très simple. Il n'y a rien de très, très simple dans ma vie, parce que j'en ai 14. J'ai fait une licence de droit donc à Saint-Étienne. Et ensuite, je suis partie à Londres dans un programme Erasmus pour faire une maîtrise.
De droit international.
Public, ouais, public. Et donc, quand je suis arrivée à Londres, la vie à Londres est extrêmement chère. Était. Donc, c'était, j'ai pas envie de dire il y a combien de temps c'était, ça me fout le bourdon. Donc, c'était il y a un certain
c'est
temps.
Hier, hein.
Ouais, c'était hier. Je peux vous dire que c'était avant, Notting Hill, vous savez, le film
oui.
avec,
Coup de foudre à Notting Hill.
Voilà, coup de foudre à Notting Hill. C'était avant, parce que je vivais à Notting Hill Gate, à Chepstow Road. Et, pardon, je suis en train de tuer le micro. Je vivais à Notting Hill Gate, et c'était avant le film. Donc, c'est mon repère spatio-temporel. Et donc, à Londres, la vie était très chère. Et pour ma mère m'aider, parce qu'elle a toujours été avec moi et c'est un personnage clé de ma vie, et ma mère m'aidait, mais ça ne suffisait pas. Donc, le week-end, j'ai dû trouver un petit boulot. Et je vivais dans une baraque où il y a eu plein d'étudiants. C'était de toutes les nationalités et de toutes les orientations sexuelles. Il y avait même un mec qui se travestissait, enfin, c'était extraordinaire, j'ai toujours adoré ça. Et donc ils sortaient tous beaucoup en étant étudiants et ils allaient à l'époque dans une boîte de nuit qui s'appelait le Ministry of Sound, qui était une boîte culte, et ils m'ont trouvé une place au vestiaire. Et mon amour de la mode a aussi vraiment grandi dans ce vestiaire, dans ce petit,
ces 2 mètres carrés. Les
fringues, mais Valérie,
des
tu te rends pas compte, les fringues des femmes, des drag queens, ils avaient des blousons gigantesques en forme de virus du sida, des trucs de toutes les couleurs. Et j'étais fascinée par la joie et la mise en scène, en fait, c'était vraiment important pour eux de se mettre en scène quand ils sortaient. Ils avaient des tenues, ils avaient vraiment, il y avait un statement, et c'était fabuleux. Et donc, j'ai été fascinée par cet univers-là, l'éclectisme aussi de cette nuit. Mmh. Il y avait des grands patrons, il y avait des petits gars, des petits stylistes qui commençaient.
Tu aurais pu écrire un livre sur le sujet.
Ah ouais, c'était complètement dingue. Et quand je suis revenue donc, à Paris, déjà, je suis pas rentrée à Saint-Étienne et j'ai dit à ma mère, je n'embrasserai pas une carrière juridique, mais j'ai envie de travailler dans ce monde de la nuit. J'ai envie d'en faire quelque chose. Donc évidemment, t'imagines, je sais pas si t'es maman, mais voilà. Donc imagine l'angoisse qu'elle a eue. Elle m'a dit, mais tu peux pas faire ça, c'est pas un métier. Je dis, je vais en faire un métier, et comme toujours, avec beaucoup de sérieux, de détermination, mais aussi de joie. J'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire à Paris. Donc, je me suis quand même inscrite à Paris dans une fac de droit par principe.
Pour faire plaisir à maman.
Un peu. Et puis aussi, je pense aussi pour me rassurer aussi. Parce que je disais à tout le monde que j'étais sûre de moi, mais vous avez toujours cette petite part de vous qui vous dit, bon, attends, déconne pas trop non plus. Garde quand même un petit coin de sécurité. Et j'ai eu la grande chance de croiser Cathy Guetta. Cathy Guetta, que je ne connaissais pas, et je l'ai rencontrée par hasard. J'ai été fascinée par le personnage, déjà physiquement, parce qu'elle en jette. C'est pas n'importe qui, je peux vous dire. Moi, j'étais petite provinciale. Bon, j'arrivais de Londres, heureusement, j'avais eu un petit sas de préparation à ce genre de personne. Et puis, je l'ai rencontrée, j'ai été fascinée. Et j'étais absolument pas qualifiée pour être serveuse ou quoi, ou caisse, mais j'avais l'envie d'y arriver. Et elle m'a donné ma chance. Elle m'a permis d'être serveuse dans un club mythique qui s'appelle les bains douches à l'époque, à l'étage, donc le VIP du VIP. Et j'ai fait mes armes là-bas.
C'est là que tu as commencé à faire
absolument.
Tes bains et tu as monté ton agence de com.
Et j'ai monté mon agence de com.
Après, il y a eu des passages à la télé. Absolument.
Oui.
Est-ce que tu es une fashion victime?
Ça dépend. En ce moment, moins. Je l'ai été. Je l'ai été parce que j'avais un côté très boulimique dans la mode. J'avais besoin d'accumuler. Et je pense que ça vient aussi du fait que je suis, j'ai vraiment la chance d'être plein de meufs. Je m'autorise à être plein de femmes. C'est-à-dire que la journée, je suis une businesswoman. Le soir, j'ai pas de problème pour enfiler mon jogging avec des traces de sauce tomate dessus pour faire à bouffer à mes gosses, très mauvais d'ailleurs, parce que je cuisine très mal. Et puis tout à coup, je fais une changite et robe du soir. Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de fringues pour assouvir toutes les volontés de toutes les meufs qui sont pas toujours d'accord d'ailleurs dans ma dans ma tête.
Comment t'étais justement enfant et ado? Est-ce que t'as une maman qui t'a donné des... Ta maman t'a donné des conseils?
Alors oui, ma maman, elle m'a donné énormément de conseils. Elle m'a évidemment façonnée et je la remercie pour ça. Après, elle m'a énormément inspirée. Elle est tout sauf une fashion victim. C'est une femme de tête, de réflexion, d'intelligence. Elle me disait toujours quand j'étais petite, je me fiche que tu saches cuisiner, que tu saches ranger. Je veux que tu saches apprendre. Je veux que tu aies des connaissances. Donc, elle m'a toujours poussée à devenir tout sauf une femme d'intérieur. Elle n'avait absolument rien contre les femmes d'intérieur, mais son expérience à elle, de femme active, elle est huissier de justice, elle fait que si elle s'en est sortie quand mon père s'est barré, parce que j'ai grandi sans
unique.
Père. Non, j'ai un frère. Mmh. Quand mon père, enfin mon géniteur, on va dire, s'est barré, c'est le fait qu'elle ait ce métier, cette force, ces connaissances et autant d'assurance, c'est ça qui l'a sauvée, pas autre chose. Donc elle me disait, apprends, travaille, trouve-toi des boucliers,
peu importe.
Et on s'en fout comment tu t'habilles.
Ah oui, donc t'as pas été élevée, tu l'as jamais vu coudre ou jamais,
Non, je l'ai. Alors elle sait pas coudre, elle est pas du tout manuelle. Quand elle me coupait la frange, elle me la coupait à la moitié du front. C'est quelqu'un qui s'habillait de manière très classique. Vous savez, c'est ce milieu de juristes en province, et souvent ils sont très bleu marine, tailleur, très très classique. Et c'est une famille très très aristo.
T'as
donc
pris un peu le contre-pied.
Ah ben, absolument, mais pas par rébellion, c'est parce que c'était mon envie. J'avais envie de couleur, j'avais envie de choquer, j'avais envie de...
De choquer.
Un peu, ouais.
Mais toi qui as donc, t'as plusieurs styles.
C'est absolument.
Tu peux pas définir ton style.
Ah non,
Et t'as toujours été comme ça?
Ouais, ça oui. J'allais à la fac avec des robes Xulibet. Je sais pas si cette marque parle aux gens qui nous écoutent, mais c'était une marque qui avait été montée par Lamine Kouyat, un créateur que j'adorais, et ses robes, c'était des tubes de jersey avec des couleurs et des grosses coutures rouges.
Mais tu les portais
à la fac, à Saint-Etienne. Ouais, ça a commencé à Saint-Etienne. Et quand je suis revenue de Londres, j'étais dans un peu l'extravagance. En fait, je m'interdisais rien. J'avais envie de me parer de certains vêtements un peu forts. C'était mon bouclier anti-connard. En gros,
bouclier anti-connard.
Mais en gros, si on s'arrêtait à ça, et on se disait, oh ben voilà, cette nana-là, elle exprime ça dans son vêtement, c'est que ça doit être une fille pas très intéressante ou légère. Et ça m'amusait beaucoup, en fait, de jouer avec le regard des gens.
J'imagine que le regard des autres, tu t'en fiches total, du coup.
Alors, ça m'amuse. Je peux pas dire que je me fiche du regard des gens, parce que je suis assez intéressée par la vie des gens, mais pas tous les gens.
Donc, c'est-à-dire, les gens qui comptent.
Voilà, ouais, les gens qui comptent, ou les gens qui vont avoir des regards bienveillants.
Le beau brun qui m'a accueilli là, dans ton appartement, j'imagine que son avis compte beaucoup.
Oui, alors évidemment, parce que c'est l'homme de ma vie, bien sûr. Mais il a très vite compris que c'était compliqué de m'imposer quelque chose stylistiquement. Et il me laisse faire ce que je veux. Et c'est aussi le secret d'un couple qui s'aime, ce qui est notre cas. C'est qu'on ne s'est pas remis ensemble pour se changer. On s'est remis ensemble pour se faire du bien. Donc voilà, on aime qui on est.
On va faire une petite parenthèse, parce que j'étais en admiration devant les photos de ton mariage qui sont affichées dans le salon.
Je t'ai vu.
Et je te disais que ta robe était finalement hyper simple.
Tu sais que c'est hyper marrant, Valérie, parce que effectivement, ma robe est toute simple, au-dessus du genou, avec des manches.
Très sage.
Oui, très sage. Et tout le monde m'attendait avec un truc genre waouh.
La robe violet à la Victoria Beckham.
Absolument, violette, ou à la Lady Gaga en tranche de Carpaccio. Et en fait, comme souvent, j'aime bien prendre le contre-pied. J'ai appelé à l'époque de mon mariage Sylvie Rousseau, qui travaillait chez Dior. Et je lui ai dit, Sylvie, je veux la robe la plus simple, la plus chic, la plus mignonne qui existe, parce que déjà mes amis ne s'y attendent pas. Et je me mariais avec mes enfants. Donc c'était un moment très solennel, et j'avais envie que ce qu'on voit, ce soit nos sourires et pas un décolleté ou autre chose.
Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est
la couronne de fleurs. Ce jour-là, j'étais la reine du bonheur, et je le suis toujours.
C'est
la chaume qui m'a fait cette couronne.
La chaume. Ouais. Quel est l'ADN de ta garde-robe, s'il y en a?
L'ADN, c'est le... Alors, il y a plusieurs motivations dans ma... dans ma garde-robe, il y a un côté très pratique, l'envie d'avoir des fringues dans lesquelles je suis bien, qui soient easy, qui se mélangent avec plein de choses, donc des basiques, un super jean Levi's, des baskets.
Pour toi, Levi's, c'est la base?
Ouais, je suis à l'ancienne. Non, mais vraiment, c'est un truc que je porte, j'use. Le 501, c'est salut, ça me va bien. Bon, là, il se trouve que j'en ai pas, mais j'ai un. Ça, c'est un petit truc Gaël Constantini, je crois, que je porte. Donc, il y a des trucs basiques. Et puis, j'ai besoin de pièces fortes, très fortes. Pendant des années, à ma période des bains, j'étais amie avec Delia Avdali qui travaillait chez Galliano.
Ah, oui, là, t'étais servie.
Voilà. Donc, j'avais dans mon dressing, j'ai des tonnes de. Vraiment des tonnes, hein, de robes Galliano qui m'ont gentiment offert. Ce que je les portais, c'était des robes de défilé. Je les portais en servant. Et je les ai gardées. Et c'est des pièces extraordinaires. C'est un peu l'album photo de ma vie, en fait, mes robes. Je vois les périodes qui défilent. Ouais, vraiment.
Et justement, ton dressing, il est parfaitement rangé par code couleur, par forme de pull.
Je suis tout sauf psychorigide. C'est un joyeux bordel. Et j'aime bien me faire des surprises. En fait, j'aime bien que dans mes placards, je retrouve un truc. Je fais, oh là là, j'ai ça, je vais le mettre. C'est pas du tout organisé. C'est absolument pas classé. Un, j'ai pas le temps. Et deux, je déteste ça. L'ordre m'angoisse énormément.
Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin?
4 minutes.
4 minutes.
Je ne me maquille pas. Ouais. Je me coiffe très peu. Et quand je suis en train de boire mon café, je sais déjà ce que je vais mettre. Je suis, j'ai pas le temps de me poser des questions. Donc le matin, ça va très vite. Moi, j'adore dormir parce que, enfin, je dors très peu. Donc quand je suis en train de dormir, j'essaie de privilégier ça. Et donc je suis pas du tout quelqu'un qui se maquille, qui se prépare.
T'as quand même une vie très très saine.
Ouais, non, mais j'ai une
tiens
vie.
À dire.
Non, mais c'est vrai.
T'es déjà vu en soirée. Je t'ai jamais vu boire une goutte d'alcool.
Non, je suis jamais comme mes invités. En fait, je peux pas. Non, mais parce que c'est un travail. Donc, en fait, les gens qui se prennent les pieds dans le tapis dans ce milieu, c'est ceux qui pensent qu'ils doivent être aussi bourrés que leurs clients. La réalité, pour durer, pour être pérenne, c'est de toujours savoir ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous êtes là. Et dans ce milieu de l'événementiel et de la nuit, c'est très facile de se perdre. Alors, j'ai eu une période dans ma vie où je me suis perdue pendant 3-4 années. Je suis revenue avec difficulté dans le monde, on va dire, réel. Et pour rien au monde, je ne repartirai dans ces écueils-là. Donc ouais, j'ai une vie, je suis obligée d'avoir une vie super saine.
Tu entreprends, c'est normal. En plus, t'es maman de trois enfants.
Oui, absolument.
Et pour tes événements, comment quand tu vas t'organiser un truc, tu sais quelle robe de soirée tu vas mettre très à l'avance ou pas du tout?
Alors, s'il y a
robe
un thème
de soirée ou tenue habillée.
J'adore les robes de soirée. D'ailleurs, bon, il y a plein de photos. Je fais pas mal de fashion faux pas.
Et je pense t'as anticipé une question.
Ouais, parce que je pense que les gens qui n'osent pas ne font pas de fashion faux pas. Donc, c'est très facile de dire, oh là là, t'as vu. Ouais, évidemment qu'il y a des moments où on se plante. On pense qu'il y a aussi des vêtements qui rentrent très bien quand on les regarde. Puis en photo, c'est une cata. Quand j'ai une soirée, je vais d'abord regarder où je vais et qui sera là. Et en fonction, je me dis, est-ce que je rentre dans le code? Est-ce que je vais à l'opposé? Je m'amuse beaucoup. Et puis surtout, j'ai une maladie qui s'appelle la changite. Voilà. Donc, je me change souvent pendant mes soirées.
Ah, au cours de la soirée.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que je pense qu'on n'est pas la même en début de soirée et en fin de soirée et qu'on n'est pas là pour la même chose. Au début, vous êtes là pour accueillir, vous êtes là pour
Donc là, tenue plutôt classique?
Classique ou, ouais, classique, rassurante. Et puis, au fil de la soirée, je peux faire... 2 ou 3 changites pour finir souvent, faut le dire, en paillettes parce que j'adore les paillettes. J'adore ça.
Quelle est la pièce préférée de ton dressing?
C'est dur ça. La pièce préférée de mon dressing.
Ton appartement brûle, qu'est-ce que tu embarques?
Alors, je vais embarquer. J'ai une combi de chez Elos qui est une combi noire en faux, évidemment en faux python, qui est canon. L'avantage de la combi, c'est que ça fait le haut, le bas, ça fait un joli cul.
C'est moulant ou
c'est moulant? Pas spécialement
non, c'est pas
moulant. Non, c'est pas une combi en latex. C'est une combi en cuir, en faux serpent, et qui me va plutôt pas mal et qui me sauve des coups parce que ça fait le haut, le bas, elle est un peu brillante, elle est sublime, donc je dirais ça. Et puis je dirais une pièce de chez Oud qui est une marque que j'ai lancée il y a 7 ans, avec qui appartient à Patricia Bitton et Raphaël. Et c'est pour
des pièces
moi,
en soie magnifiques. Oh,
c'est pour moi le... En fait, elle est faite pour moi, cette marque. Et c'est à la fois des vêtements de red carpet, mais aussi des costards. La veste que je porte, c'est une veste Oud, costard ultra bien coupé. Oud, c'est vraiment la marque qui m'accompagne partout. Et sous du Oud, c'est du Livy. Livy, Lisa Chavot.
Alors, c'est tout, là.
Non, mais vraiment, non, mais parce que les sous-vêtements, c'est aussi de la mode pour moi. J'ai vraiment, savoir s'habiller comme se déshabiller, c'est aussi important.
C'est élégant.
Absolument. Et Livy, Lisa, elle a compris les femmes. Elle a donné un petit côté chic à la lingerie très sexy.
Elle a su twister.
De ouf. Elle a trouvé le côté un peu rock qu'avait Agent Provocateur, mais dans des prix.
C'est moins cher.
Absolument. Et puis c'est de meilleure qualité, si je peux me permettre, pour les utiliser beaucoup. La lingerie Livy, c'est de très bonne qualité. Et puis maintenant, ils font des fringues, des t-shirts, des matières de ouf. Donc voilà, ça serait une pièce Oud, une pièce Livy et ma combi Elleuse.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais? Un truc vraiment.
Il y en a pas mal. Les crocs et les hugs.
Ah là, ce sont des chaussures.
Ouais, c'est pas des vêtements? Ok.
Accessoires plutôt.
Vous avez raison, mais attention, je parle à une spécialiste. vêtements que je porterai jamais. Attends, je réfléchis.
Peut-être rien.
Non, j'aime pas trop les. J'aime pas trop les vêtements, les chemisiers col Claudine, tu vois, les petits chemisiers
comme,
fermés
comme
avec les manches ballons.
Là.
Ouais.
Mmh.
Tu vois, les vêtements à jabot, déjà parce que j'ai de la poitrine, une fausse, mais elle est là.
On va tout savoir.
Non, mais ce que je veux dire,
c'est que tu es sans filtre.
Plus ou moins, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, oui, en tout cas là-dessus, j'ai aucun problème, j'assume, et puis j'ai pas envie de raconter aux gens qu'à 50 ans, on a des seins qui tiennent tout seuls normalement. Non, souvent, on fait des travaux. Il faut le dire, et je pense que ça décomplexe. Non, les petits chemisiers fermés.
Oui,
avec les cols,
comme on voit avec les gros cols.
J'ai quand même une grosse tête et on dirait un gros bibendum. J'aime pas.
Bon, alors on a parlé des fashion faux pas, mais est-ce que tu te souviens d'un quand même où là tu t'es dit
Alors, les fashion faux pas, on s'en rend compte après. Sur le moment, je m'en rendais pas trop compte. Non, par contre, j'ai des souvenirs de robes qui craquent, de.
Ça, c'est plus galère, c'est la galère.
Ouais, mais ça vient aussi du fait que la pièce, ben, tu rentres pas vraiment dedans, mais tu forces sur la fermeture éclair parce que c'est ça que tu veux être. Et non, j'ai des souvenirs de une robe qui craque, une fermeture éclair
justement,
qui s'explose.
Tu parlais de red carpet à Cannes quand tu montes les marches.
Oui, oui, oui.
Pareil, tu choisis les tenues longtemps en avant
pas
tu
vraiment,
montes avec une robe, tu descends avec une autre.
Alors, non, sur le red carpet, on ne peut pas faire ça. Je le ferais si je pouvais, mais non. Écoute, sur le red carpet, j'en ai fait pas mal. Non, je ne choisis pas longtemps à l'avance. Je vais, déjà parce que ça m'angoisse un peu, moi, de préparer trop en avance les choses. C'est très anxiogène pour moi. Je suis meilleure sur le moment. Je ne te dis pas que je le fais 5 minutes avant, mais voilà, le matin
tu
même.
Tu ne passes pas la journée à te maquiller, coiffer.
Pas du tout. Donc, à Cannes, je vais... cette année, par exemple, j'ai monté les marches avec une robe vintage Yves Saint Laurent que j'avais dans mon dressing depuis petit moment. Donc, c'est pas du tout des créateurs qui m'ont habillée. J'ai eu envie de ça. Et j'ai d'ailleurs monté les marches avec une paire de boucles d'oreilles Maison Canopia qui est de la paille.
C'était l'année dernière.
C'était ce Cannes-là. Et tout le monde en parlait en disant, mais c'est des bijoux en quoi? Tout le monde avait des rivières de diamants.
Regarde sa marque, parce que je m'en souviens.
C'est génial. Et cette marque, je l'adore, je les porte et je me suis dit, c'est aussi un petit clin d'œil au fait qu'on peut monter les marches en Saint-Laurent et que tout dépend de votre
vintage.
Style. Et absolument, vintage. Et tout dépend du style. Si vous l'assumez, ça passe et c'était canon. Et Maison Canopée, ils m'ont dit, mais jamais on pensait faire un red carpet. Et je leur ai fait faire.
C'est Julie Pellet qui a créé.
Exactement,
ça.
C'est Julie Pellet.
Elle travaille chez Instagram.
Absolument. Et puis elle a sa marque que j'adore. Qui est qui est éthique et c'est des boucles d'oreilles en paille qui sont sublimes. Allez voir sur leur page, je vous le conseille.
Je donnerai tous les liens.
J'ai monté aussi les marches avec une marque londonienne qui s'appelle Somi. La deuxième fois, une robe. Alors là, pour le coup, qu'elle a fait sur mesure pour moi. Elle était à Cannes dans mon endroit et elle m'avait dit, moi, je veux venir chez vous, je vais vous faire une robe. Et donc, elle m'a fait une robe sur mesure en cuir doré avec un bustier plastron sublime et un rêve de petite fille. C'est réalisé ce jour-là parce que j'ai porté une, ça s'appelle un jupon. Comment t'appelles ça, les trucs énormes là, quand tu mets une robe par-dessus? C'est un jupon, c'est un jupon, une crinoline,
oui. Je sais plus. Oui.
Et j'ai porté cette robe-là de princesse. J'étais tellement fière. J'étais avec mon amie Gaëlle Constantini, qui elle aussi a une marque de fringues. On a monté les marches toutes les deux. C'était fou, ce moment.
Tu n'as jamais eu peur de tomber? Moi, ce serait mon angoisse.
Je suis tombée. Ah. Mais Tomer m'a rattrapée. Mais en fait, la première montée des marches, je rate la première marche. Et heureusement, je suis en train de... Je lui tiens le coup. Et en fait, je rate la marche et je me rattrape sur lui et je l'embrasse. Genre, ben en fait, je suis en train de tomber. Les gens m'ont dit, mais comment? On ne peut pas se comporter comme ça sur les marches, s'embrasser autant. Déjà,
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdits pour monter les marches.
Voilà, bah, tu ne peux pas prendre de selfie, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens, enfin des haters, hein, qui ont dit, mais regarde comment elle se comporte. Alors déjà, je vous emmerde.
Ah oui, alors toi, les haters, on va faire une parenthèse, on va parler d'Instagram.
Ouais,
comment
tu
gères ça?
Écoute, j'ai voilà, c'est jamais agréable. Je te mentirais, j'en ai beaucoup, mais j'ai plus de gens qui m'aiment que de gens qui me fracassent.
Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi? Moi, je sais que j'en ai eu, j'en ai eu pas mal.
Bah, mais... déjà parce que je pense que je peux être agaçante, donc je peux le comprendre. Je peux comprendre que des gens ne
m'aiment
pas.
C'est de la jalousie.
La jalousie, ou peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je représente, et pourquoi pas.
Mais dans ce cas-là, pourquoi te suivre?
Alors, oui, déjà, pourquoi me suivre? Mais exprimer derrière un téléphone de manière polie qu'on n'aime pas quelqu'un, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense que ma personnalité, et puis tout ce que je m'autorise, c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde et ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la haine gratuite, c'est les attaques sur la religion, le physique, l'âge. Les gens sont ultra méchants.
Et souvent, ce sont des femmes.
Et, ouais.
C'est ça qui est fou. Alors qu'on est dans l'ère de la sororité, et les plus violentes, ce sont les femmes.
Oui.
Justement, tu parlais de l'âge. Est-ce que tu t'es mis des interdits avec l'âge ou... Enfin, je crois connaître la question, mais...
Écoute, non. Pour l'instant, non. Après, j'ai des choses que j'ai plus envie, moins envie de montrer. Tu vois, quand tu vieillis, tu vois que ta peau, elle est moins ferme, etc. Donc, ce que je pouvais porter sans collant, par exemple, sur un red carpet, aujourd'hui, je vais mettre un petit collant parce que je vais avoir un petit accordéon sur les genoux, des petites choses, enfin, des choses qu'on voit, nous, tu vois, Valérie. Mais des interdits par rapport à l'âge stylistiquement, non. Après, si ça ne me plaît pas, si ce que je vois, c'est pas joli, ou si je vois un pli que j'avais pas, parce qu'il y a des plis qui apparaissent avec la
vie. Je sais que tu me faisais beaucoup rire avec...
Avec mes genoux. Oui, parce que j'ai...
Rire gentiment.
Oui, mais j'ai pas de problème. Et puis, de toute façon, je le montre, donc...
Je sais.
C'est pour aussi...
Mais tu sais qu'à cause de toi, maintenant, je bloque sur les miens.
Ah bon, merde. C'est pas le principe. Le principe, c'est plutôt de dire, regardez les meufs, on est toutes dans le même bateau et à un moment donné, tout se casse la gueule. Faisons au mieux et puis bon.
Est-ce que ça te fait peur de vieillir?
Non. Alors non, j'ai envie de bien vieillir, mais peur non, parce que j'adore ma vie. Donc vieillir dans un contexte qui est agréable et doux, ça ne fait pas peur. Moi, je suis aimée, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai un travail, j'ai des amis géniales et puis je considère que j'ai beaucoup de chance. Donc j'ai pas peur de vieillir. Après, je n'aime pas vieillir. C'est autre chose.
Parce que les nains qui disent vieillir, c'est super. Moi, personnellement,
non,
je trouve pas ça super.
Non. Alors, moi non plus. Je trouve qu'il n'y a rien de... En tout cas, physiquement, c'est compliqué de voir quelque chose dépérir ou en tout cas se patiner, on va dire. Je pense qu'on est complètement inégaux avec les garçons. Nous, on vieillit, eux, ils mûrissent.
Et souvent bien.
Après, la chance que moi j'ai, c'est que j'ai jamais tout misé sur mon physique, et tant mieux. Donc, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je peux me raccrocher. Mon travail, mon esprit, toutes mes amies. Donc, c'est pas le point principal de ma vie. Donc, vieillir, avoir peur de vieillir, non. Ne pas aimer vieillir, oui.
Quel est ton rapport à l'accessoire? Donc, on sait que tu n'aimes pas les hugs et les crocs.
Exactement. Oui, parce que j'adore les talons.
T'es tout le temps en talons.
Je suis tout le temps en talons. Enfin, dès que je peux, je me mets en talons. J'ai même des chaussures de lit. Donc j'ai même des chaussures que je ne mets qu'en intérieur. Ah ouais. Qui sont des, ouais, je suis une folle de Louboutin et Zanotti. J'adore ces marques, j'adore les talons. Je suis une danseuse, j'ai beaucoup dansé. J'aime la posture et l'allure que des talons nous donnent. J'aime le bruit des talons sur le sol. Les chaussures, c'est ma folie. Voilà,
plus que les sacs.
Mille fois plus que les sacs. Mille fois. Tu regarderas, j'ai vraiment un dressing de chaussures.
Tu vas mourir ton dressing.
Bah, c'est fou ce que j'ai comme chaussures. C'est fou, 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 fou.
Que penses-tu de l'expression être à la mode finalement?
Je dirais que c'est plus, en fait, les gens, quand ils disent être à la mode, c'est plus être dans l'air du temps. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec les vêtements. C'est plutôt correspondre à ce que les gens aiment à un moment donné, dans l'attitude, dans le charisme, dans les valeurs. Mais je ne suis pas sûre que ce soit uniquement autour du vêtement.
Tout ce qui est hit bag, hit shoe, ça
je m'en branle complètement. Non, alors vraiment, ça, je me fais pas influencer. Si j'aime pas quelque chose, je vais pas l'acheter parce que c'est tendance ou parce que tout le monde l'a. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait.
T'es indépendante jusqu'au bout.
Je raconte.
T'es libre.
Non, je l'ai fait dans ma jeunesse et je ne le porte pas. Donc, c'est-à-dire
depuis quel âge tu t'en as aperçu? Tu t'es dit...
très très vite. J'ai fait ma première connerie. Je me souviens, j'avais acheté à l'époque. Hein, je te raconte ça il y a 1000 ans.
Hier encore, je te le dis, c'était hier.
Ouais. Un jean. Ultra large Marité François Girbeau, parce que c'était la mode.
Ouais, c'était la mode à l'époque.
De ouf. Mais c'était pas mon style à l'époque. Je l'ai acheté, je l'ai jamais porté. J'ai dit ça t'a coûté 400 balles. Faut que ça te serve de leçon. Et donc, je l'ai plus fait. Donc, non, je ne me laisse pas influencer dans le sens où je vais pas avoir un acte d'achat si j'aime pas le truc. En revanche, dans des magazines comme le Elle,
voilà,
le Vogue.
Tu puisses ton inspiration.
Bien sûr.
Dans la presse papier encore.
Bien sûr. Ouais, je suis encore presse papier. Évidemment, je suis plein.
Je crois que
c'est une
question de génération.
Bien sûr, bien sûr.
Et tu puisses ton inspiration sur Instagram aussi.
Bien sûr. Bah, j'adore voir les petites meufs qui déboulent avec ces nouveaux styles, tout ce qu'elles s'autorisent, les nam à fouf, les choses comme ça. Je les regarde, elles m'éclatent. Je me dis, mais c'est génial d'aller à fond dans son délire. Bien sûr que je suis pas du tout... j'adore découvrir, j'adore la différence, j'adore voir les nouvelles générations arriver, comment elles interprètent la mode.
Tu flaires leur temps aussi.
Et puis elles réinterprètent aussi des pièces qu'on a portées nous. Donc c'est... Non, j'adore ça.
Est-ce que tu as une icône de mode?
Waouh! Ben moi, c'est mon icône tout court, c'est Madonna. Donc,
j'ai vu que tu l'as vue, t'es allée à tous ses concerts.
Absolument. Je suis.
Et t'avais l'air de vraiment apprécier. Hein.
Je ne suis fan de personne à part d'elle. Donc, elle m'a, du fond de ma province, inspirée. Elle m'a montré qu'on pouvait être plein de femmes. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que nous, j'ai l'impression d'être tellement ancienne, mais on n'avait pas de téléphone portable, de choses qui nous permettaient d'avoir une vision sur le monde, mais le monde au sens large. Nous, c'était, on allait à la fac, on allait à l'école, on regardait comment s'habillaient nos cousines, nos copines, on achetait des magazines, Biba, des machins comme ça, on regardait ce que
et
c'était.
Et quand t'allais en soirée qu'il y avait un interphone, et bah, tu restais en bas. Bah,
exactement, tu pouvais pas dire je suis en bas. Donc, et Mado, dans sa déclinaison de la femme, parce que c'est ce qu'elle a fait, elle m'a montré qu'on pouvait être sexy, qu'on pouvait être ambitieuse, qu'on pouvait être une femme d'affaires. J'ai vite compris en fait que c'était un business. Elle m'a montré qu'on pouvait s'assumer, qu'on pouvait être à poil et être chic, qu'on pouvait avoir une orientation sexuelle qui évolue sans devenir le démon. Donc elle m'a énormément inspirée. Elle est libre, elle est courageuse et elle est allée dans tous les styles. Et elle m'a énormément inspirée. Je dis pas que j'aime tout, mais elle m'a toujours bluffée. Et voilà, donc c'est mon idole.
Quelle est ta définition de l'élégance?
L'élégance, c'est lorsque le vêtement devient sur soi une attitude. C'est l'élégance, c'est d'abord une attitude avant d'être une couleur ou une forme. Moi, j'ai des amis qui peuvent mettre ce qu'elles veulent, elles seront élégantes. Donc l'élégance, c'est quand le vêtement devient ouais, une manière d'être.
Et se fond à la personne.
Absolument. Ouais.
Sur ces belles paroles, merci infiniment.
Bah, c'est passé en 5 minutes.
Voilà, je te l'avais dit. Et attends, t'as été. L'épisode dure plus longtemps que prévu.
Ah mince, tu vas me couper.
Non, merci. Je ne coupe jamais. Je donne la parole à toi.
Merci Valérie. Et puis merci à tous ceux qui vont écouter ma jolie voix cristalline, si douce et si fine. Merci à tous. J'ai adoré ce moment.
Merci à toi.
Merci Valérie.
Et n'oubliez pas une chose, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.